Eh ben, au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Alors sans Dieu ni maître et Urbi comme Orbi, sans sponsor ni publicité. Pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeur, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. C'est remis aux République ou Filles du Calvaire. C'est ouvert du mardi 13h jusqu'au samedi. Voilà. Ben, on est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, avec Serge qui rentre en gare aujourd'hui. Bonjour Serge, y compris la carrière de l'or des accords. Alors que, comme on m'a demandé, je vais repréciser, mais ce ne sera pas la première fois, désaccord, c'est D-E-S plus loin, accord. Hein. C'est-à-dire, on n'est pas dans le c'est désaccord, ça. On est dans l'accord au pluriel.
Exactement, au D'accord. pluriel.
Voilà, c'est très bien, parce qu'on m'a demandé. Hein. Et puis, avec Monique à la technique, comme à chaque fois. Alors, voilà. Bon. Alors, c'est pour le au bord du désert d'Atacama, c'est un roman, c'est marqué roman, c'est le nouvel Attila.
Oui.
Alors, je suppose que vous avez eu affaire à M. Benoît Viraud.
Ah, j'ai eu affaire à lui, oui.
D'accord. Comment il est, ce garçon ?
Il est rêveur et en même temps, il est parfois loufoque, mais extrêmement pointilleux. Et c'est un très, très bon accompagnateur d'écriture.
Alors, Laure, autant vous dire qu'il nous doit beaucoup sur Onde de Choc pour sa carrière. Je l'ai connu il y a 10 ou 15 ans. Il errait de bar en bar dans le quartier en cherchant sa voie dans la littérature. Et puis un jour, il a fait une très, très grande découverte. Ça a été un écrivain allemand magnifique. Vous voyez pas ce que je veux dire dans sa collection ? Edgar Inselrath. Vous avez lu ça, non ? C'est lui qui a publié Le Barbier et le Nazi, qui a publié
oui,
Nuit, etc.
Barbier nazi,
voilà.
Bien sûr.
Voilà. Et donc Benoît avait mis la main là-dessus. Il avait trouvé aussi à l'époque. Non, il n'était pas si errant que ça, je tiens à vous le dire, il ne traînait pas trop dans les bars. Il avait trouvé aussi déjà une patte. Il avait la patte de l'éditeur. C'était pas seulement une découverte de livres, mais c'était vraiment quelque chose auquel il tenait beaucoup dans la faconde de ce qu'il a réussi à faire avec vous. Hein, le livre est très, très, très bien fait. Bon, Benoît, j'espère que tu m'entends. C'est très marrant, et puis après, on va voir. Très, très marrant, parce que la dernière fois qu'il est venu ici, on a eu... il avait publié un garçon qui avait fait aussi pareillement un livre très élaboré, travail de langue et tout, et un autre qu'il n'avait pas publié, mais que bon, j'avais fait un commentaire dessus. Et l'émission a lieu, comme ça, et Benoît dit à la fin de l'émission, tranquillement, il dit, de toute façon, le plus grand des livres, c'est Fantomas.
Oui, ça ne m'étonne pas.
Et c'est fabuleux. Voilà, parce que je suis d'accord avec lui en même temps. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ce livre, il doit faire 120 pages, quelque chose comme ça. Il fait 120 pages, votre livre, non ?
Oui, il n'est pas très long. Voilà. Moi, j'ai l'impression d'avoir écrit 500 pages, mais il fait 120.
Alors, là, j'ai fait l'erreur qu'il ne faut pas faire.
La quatrième ?
Oui, la quatrième. À chaque fois, ça m'arrive, je me promets de ne jamais le faire. Et à chaque fois, je me fais avoir.
Ah, mais moi aussi.
D'accord. Vous savez, Guy Chambellan, l'éditeur vinocéphale de la rue Racine, disait qu'avec la multiplication des réseaux sociaux, etc., maintenant, il recevait plein de manuscrits, mais on connaissait la gueule du type avant d'avoir lu le manuscrit.
Oui.
Et il se refusait totalement à toute photo, toute biographie, etc. Mmh. Alors moi, j'ai lu la vôtre, là. Et donc, ça m'a malheureusement orienté. Ça m'a orienté, j'ai fait un choix que je n'aurais peut-être pas fait si je ne l'avais pas lu. Hein. C'est simplement que vous avez été en contact très tôt, si j'ai compris, avec Jean Sénac.
Oui, j'ai été en contact, en contact c'est un bien grand mot, puisque c'est un ami de mon père qui est né à Alger et qui est parti d'Alger dans les années 54. Non pas à cause des événements qui peut-être pressentaient, mais je crois à cause d'un chagrin d'amour, voilà. Mais il avait connu Jean Sénac à Alger et ils avaient fait de la radio ensemble, voilà. Et Jean Sénac est venu chez nous en banlieue parisienne, dans le Val-de-Marne, à Chevilly-la-Rue, quand j'étais petite fille. Alors, je ne saurais pas dater exactement quand il est venu à la maison. Et évidemment, c'est avant 1973, parce que comme beaucoup le savent, il a été assassiné dans des circonstances qui n'ont pas été élucidées. Je pense que j'avais 9-10 ans.
D'accord. Et il était comment physiquement?
Moi, je me souviens d'un monsieur effectivement très barbu.
C'est ça, hein, oui, c'est... barbu.
Alors quand on voit Jean Sénac jeune, il a une jolie figure, hein, voilà. Puis je crois que voilà, il avait ses maîtres à penser et qu'il faisait penser à Verlaine. Mais bon, quand j'étais petite fille, je connaissais pas encore Verlaine. Et je sais qu'il était très ami avec mon père. Enfin, pour venir donc à la maison. Et puis comme beaucoup d'enfants, j'écrivais de la poésie sur des petits chiens, sur des oiseaux, sur le ciel, des choses comme ça. Et il m'avait dédicacé un poème, je crois qu'il avait écrit à ma consoeur, enfin on avait dû m'expliquer le mot à l'époque.
J'étais bien parti déjà.
Voilà, et alors c'est pas pour les besoins de l'émission du tout, parce que, alors évidemment j'ai relu quelques poèmes, mais mes parents avaient sur leur bibliothèque une carte postale sur laquelle était écrit un poème de Jean Sénac. Et je l'ai relu et lu. Enfin, si je peux.
Donc, il est européen. Jean Sénac est européen.
Oui, Jean Sénac il est algérien et algérois. Il dit qu'il est un poète algérien de graphie française, et ce qui fait que il a une histoire personnelle très très compliquée, si on peut employer un euphémisme. C'est quelqu'un qui n'a pas connu le père, qui a été élevé par sa mère, qui a sans doute, pensons, a été violé par un gitan. Enfin voilà, il est né sans père, mais il n'a pas eu là aussi la reconnaissance qu'il voulait de ses pères, P-A-I-R-S. Voilà. Mm-hmm. Donc c'est quelqu'un qui était, qui pensait plus à l'époque. Ensuite, c'est quelqu'un qui était, très très.
Il est quand même en contact avec, il est quand même publié chez Gallimard. En contact avec Camus. Hein.
Oui, avec Camus. Avec René Char, Camus c'était son père de substitution, alors, d'une certaine façon, il a connu Char, bien sûr, mais je crois qu'il a souffert de pas être forcément très 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 reconnu. Je pense qu'il y a des gens, enfin, je m'en souviens, Kateb Yassine, c'est pas quelqu'un, qu'il avait vraiment reconnu, mais c'est quelqu'un qui avait toute une cour autour de lui et qui, la poésie en Algérie était dite, était écoutée.
Il avait rejoint le FLN.
Oui. Oui, hein? Il se sentait plus qu'algérien peut-être que d'autres. Hein. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu, qui avait demandé, je crois, sa nationalité algérienne, mais qui l'a pas eu finalement.
Contrairement à Frantz Fanon. Frantz Fanon a rejoint le FLN, il a eu la nationalité algérienne.
Voilà, hein. Et d'après ce que je sais, Jean Sénac, non. D'accord. Mais il était. Il connaissait très bien la poésie algérienne. Il a aidé beaucoup de jeunes.
Il était homosexuel.
Il était homosexuel.
Avouez, ce qui ne devait pas être facile dans l'Algérie des années 70.
Ouais. Et on retrouve beaucoup ça dans sa poésie. Mmh. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce mélange à la fois de lyrisme, hein, parce qu'il y a des poèmes très doux comme ça, très très simples, et puis quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus rigueux. Enfin, ceux qui connaissent un peu Sénac parfois rient un peu de ce verbe, mais parmi tant d'autres, hein, tu es forte comme un commissaire de gestion, voilà. Enfin, qui a une petite histoire par ailleurs, mais quand on lit le poème, il est vraiment très très beau. Il y a à la fois un lyrisme incroyable, la sexualité est très très présente dans ces poèmes, hein. J'ai découvert plus tard.
Pas à 12 ans, non. Vous n'êtes pas précoce.
Il y a beaucoup de mots que je ne connaissais pas.
Voilà. Et il meurt assassiné en 73, c'est
ouais,
ça?
Oui, en Algérie.
Et qu'est-ce qu'on dit de sa mort? C'est comme Pasolini ou c'est
quand on lit des choses sur Sénac, on pense aussi à Pasolini. Je crois que ça n'a jamais vraiment été élucidé, mais d'après ce que j'ai compris, c'était une. Enfin, lui, au lieu de partir d'Algérie, il est revenu en 62. Hein, il pressentait que. Il allait se passer quelque chose, il pressentait sa mort. Enfin, quand on lit certains poèmes, il y a quelque chose de très, très, très présent. Il est mort dans une petite. Comme une petite cave, hein, rue Élysée Reclus à Alger. Hein. Enfin, je pense qu'il pressentait cette mort. Évidemment, c'était pas. Oui, c'était une sexualité avouée, mais c'est difficile.
Alors, bien sûr, j'ai pris le livre à l'envers, ce qu'il ne faut pas le faire, j'avoue, mais à coup le pas. J'ai fait pire, hein, rassurez-vous, avec votre livre, j'ai fait pire. Et j'ai découvert que vous aviez publié deux romans.
Oui.
Voilà. Donc, L'Envoleuse chez Verdier en 2014 et Grinchka, Verdier 2016.
Oui.
Et c'est marqué de la même auteur. Vous y tenez beaucoup, à auteur ou
non,
pas?
Non, pas du tout. Absolument
là, pas. Là, on peut s'entendre.
Non, voilà. Moi, je. Là, on peut, oui, non. Moi, enfin, c'est pas une question d'être contre un féminisme, voilà, à tout craint. Mais auteur masculin ne me gêne pas. Autrice. Voilà. Après, je suis. Peut-être parce que je suis très sensible. Enfin, très sensible. J'aime bien l'enveloppe sonore des mots. Voilà. Mmh. Donc, après, il y a des mots qui résonnent plus ou moins. Mais voilà, on m'a posé la question. Je voulais auteuse, mais je crois que...
Tout à l'heure, si on a le temps, je vous raconterai l'histoire de la nounou de mes relations par rapport au féminin sur les professions. Mais puisque j'en suis... Si on a le temps, Serge, j'en suis là. Moi, j'ai une petite pensée pour mon kiosquier, parce que je viens de le rencontrer. Là, c'est comme ça. Là. Il a 73 ans. Il habite à Saint-Denis. Il travaille toujours. Il a fait une crise cardiaque il y a un an, il est retourné au boulot. Alors vu l'actualité, je ne sais pas, c'est quand même très l'actualité. Hein. Mmh. Ce qu'on va faire, on va écouter un peu de musique et on plonge dans le livre. Ça vous va ça?
Très bien.
C'est superbe, hein? Oui, oui. Toujours au 01 43 71 89 40, toujours avec l'or des accords pour Au bord du désert d'Atacama. C'est où ce désert, là?
Oh, ben c'est dans un long, long pays qui s'appelle le Chili.
Vous avez été, oui.
300 kilomètres. Non, je ne suis jamais allée au Chili. Non, jamais, mais voilà, j'ai lu la poésie chilienne, j'aime bien rêver sur l'Amérique du Sud.
Alors, j'ai continué mes erreurs, je fais que des erreurs avec votre livre. J'ai lu le pitch, ce qu'on appelle le pitch, etc. Ça n'a pas été facile à faire, à résumer ce livre aussi.
Non,
il en fallait un, je suppose qu'il en fallait un. Malheureusement, c'est pareil, il en faut un.
Oui, oui, c'est difficile. Heureusement que Benoît était là, donc il a mis sa patte.
C'est sa patte.
Oui, oui.
Oui. Voilà.
Oui, parce que Benoît se demandait au début, quand il avait lu le manuscrit, il dit mais c'est quoi? C'est un livre poétique, c'est un livre politique. Il fallait trouver une direction, parce que à l'intérieur de cette fameuse jaquette dont on aura l'occasion de parler, donc Benoît avait décidé d'imprimer des témoignages de prisonniers politiques. Et dans un premier temps, moi, ce que je voulais faire, c'était intercaler. Vraiment des passages de fiction, la narration, et intercaler en regard, hein, évidemment, parce qu'il y avait un lien, on avait beaucoup réfléchi à ça, enfin j'y avais réfléchi avant, ces témoignages-là, pour vraiment faire un lien entre la fiction et la réalité. Sauf que ces interruptions, c'était, selon Benoît, je pense qu'il avait tout à fait raison, visuellement et pour le lecteur, c'était trop d'arrêts. Enfin, ça n'était pas assez fluide.
Alors, où m'ont conduit mes erreurs par rapport à votre livre, c'est que je lis le nom Jean Sénac. Je connais un peu l'histoire de Jean Sénac. Je lis après votre livre. On y trouve de l'exil, on y trouve de la torture, on y trouve de la folie. Et là, je me dis, Laure a choisi le Chili. Alors, comme je sais que vous n'y avez jamais mis les pieds, mais en fin de compte, vous auriez pu choisir l'Algérie.
Oui, j'aurais pu choisir l'Algérie. J'en ai un peu parlé dans le deuxième, dans Grishka, où je cite aussi Henri Créa, je parle du Chénois, je parle d'un père algérien, de sa détresse, de son exil, mais c'est peut-être... Alors, c'est des choses qu'on ne s'explique pas toujours à soi-même, mais je pense que le thème de l'exil est pour moi quelque chose des résonances plus larges, plus métaphoriques. C'est un peu une allégorie, c'est le fait d'être ailleurs sans être là. Alors, le Chili est venu, on aura l'occasion aussi peut-être d'en parler aussi tout à l'heure, de ce tableau. C'est né d'une rencontre.
On va le faire. Rassurez-vous, on va le faire.
Oui. Sans aucun problème. Voilà, était né d'une rencontre, mais c'est vrai que ça aurait pu. Voilà.
Mais Santiago du Chili, salle d'interrogatoire de la Villa Grimaldi, 1974. J'ai donné des noms, de fausses adresses. Je n'ai plus mes yeux, ils coulent à l'intérieur de mes joues, de ma gorge. Mes mains sont mortes, étranglées derrière mon dos. Mon ventre liquide n'a plus de muscles et des os craquent jusque dans ma bouche. Je voudrais que mon corps se dilue, ouvre les vannes, une fois pour toutes. Je n'ai plus de honte, je n'ai plus de pudeur. J'ai trahi. Voilà. J'allais dire, pour un humour noir, on torturait à Alger. C'était dans une villa aussi. C'était la villa, je ne sais plus comment. Vous savez comment elle s'appelait, cette fameuse villa où on torturait
En Algérie?
Ouais.
Non.
C'est pareil. Donc le parallèle est...
La villa Grimaldi.
Grimaldi, ouais. Voilà. Ouais. Donc c'est le Chili, il faut quand même le dire ça, parce que les mémoires vont rapides. C'est quand même le Chili de Pinochet.
Oui.
Hein, c'est lui qui s'arrête en très tard d'ailleurs. Il va de quelle année à quelle année?
Bah après le putsch de 73.
73, voilà. Et donc c'est la fameuse scène avec Allende qui va se faire descendre. Et en fait, c'est la CIA qui est derrière.
Oui, c'est ça.
Hein, c'est ça, voilà. Ça. Et parallèlement à ça, il y a l'Argentine qui ne va pas mieux. L'Argentine, c'est vidé là, c'est ça?
Oui.
Et on trouve exactement les mêmes scènes, les mêmes choses.
Oui, ça pourrait être transposé aussi.
Transposé, voilà, je veux dire, oui.
Ailleurs, voilà.
Voilà. Il y a quand même quelque chose d'universel chez les tensionnaires. Et ça doit être extrêmement d'actualité avec ce qui se passe actuellement en Ukraine, d'ailleurs. Parenthèse. Hein. Là, je ne sais pas si vous avez vu dans l'humanité de cette semaine. Ça, c'est en Argentine. C'est une dame. C'est une dame, elle a un bon papa. Elle est sous Videla. Elle a un bon papa qui lui raconte des histoires, qui est très gentil, etc., etc. Cette petite fille va grandir jusqu'à temps où elle va s'apercevoir que son père est un tortionnaire. Elle arrive à maturité, et avec d'autres, elle va fonder elle ne veut plus voir son père, la honte, elle ne veut plus voir son père. Elle va fonder une chose contre le régime de Videla, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? Son père va mourir, sa mère va mourir, son père est libéré, demeure en vie, et avec ses autres sœurs, elles lui font un procès. Parce que dans la loi argentine, on n'a pas le droit d'intenter un procès à son propre père s'il ne vous a pas porté directement tort. Et la loi argentine, elle prend une phrase de la Bible, c'est « tu honoreras ton père et ta mère ». Terrifiant, non? Voilà. Bon, c'était une petite parenthèse. Autre erreur que j'ai fait par rapport à votre, j'ai fait que ça. Mais c'est un très beau livre, je l'ai déjà dit en antenne. Autre erreur, c'est que je me suis interrogé sur qui avait fait la peinture de couverture,
qui
est déterminante par rapport à votre livre.
Oui.
Déterminante. Et là, j'ai fait pire. Alors, j'ai fait pire, c'est que j'ai lu les dernières pages. Voilà, qui explique. Alors, vous en parliez de cette peinture ou pas de cette peintre ?
Oui, allez-y. Oui. J'ai connu l'artiste peintre Irène Dominguez, qui est morte en 2018. J'ai des amis communs, Christian et Christine de Sailly, à Gordes. Et je l'ai rencontrée à plusieurs reprises. Et notamment, j'ai été invitée à l'ambassade du Chili, parce que Irène avait écrit un livre qui s'appelle El Tango de mi vida, le tango de ma vie. Donc c'est quelqu'un qui était très proche de Michel Bachelet. C'est quelqu'un dont le père était maire à Santiago du Chili. Elle vient d'une grande famille. Elle était très tôt un peu elle était d'abord très 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 timide. Elle a été envoyée aussi en Argentine. Elle est allée apprendre le chant, la danse. Et je savais ce qu'elle peignait. J'aimais beaucoup, je suis allée voir ses expositions à Paris et à l'ambassade du Chili, j'ai pu rencontrer ce tableau. Et Irène donnait parfois plusieurs titres au même tableau. Alors c'était le tango, les tangos aux pommes, ou le tango des amants aux pommes. Voilà, et je suis partie de ce tableau pour raconter une histoire.
Donc pendant tout le livre. Tout le livre, les 120 pages du livre, même les 118 pages, comme etc., ça tend vers l'explication de ce tableau, en fin de compte.
Voilà, de ce tableau, de ce couple qui est habillé de belles robes, beaux costumes, qui sont en train de danser, mais qui sont comme couchés dans une baignoire. Et je crois que sur le tableau, il y a de la dentelle incrustée. Il y a aussi, parce que Irène dessinait des pommes, par exemple, sur des petites serviettes, et elle les incrustait. Et il y avait... Pensez un peu à Chagall, en fait, ces tableaux-là. Mmh. Et c'est en fait la rencontre de ces amants, la puissance de leur regard, tout ce qui émane de ce tableau. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'on peut en arriver là, à se regarder de cette manière-là? Ils ont peut-être dû traverser des choses vraiment terribles. Donc, pour moi, cette inscription comme ça dans le Chili Pinochet, et qui pourrait être retransposé dans d'autres pays. C'est politique, évidemment, mais c'est aussi quelque chose de plus allégorique. Voilà, ce qui m'intéressait, comme dans L'Envoleuse et dans Grishka, c'est tous ces gens qui sont un peu cabossés, qui sont au bord d'eux, et que finalement, ce qui se passe comme ça entre eux, ce qui se passe entre les gens est tellement... parfois est tellement puissant parce qu'on a vécu des choses difficiles ensemble. Alors évidemment, c'est inséparable de...
Mais vous y avez pensé pendant toute la rédaction du livre ou vous est venu après, à ce tableau?
Ça m'est venu au fur et à mesure, oui. Alors, en fait, j'avais écrit déjà des textes, j'étais embarquée dans d'autres histoires, mais toujours à partir de... d'enfants un peu cabossés, d'enfants un peu différents. Certains textes comme ça ont pris place, ont été retravaillés pour les besoins, dans l'économie du récit. Mais ensuite, ça s'est déroulé de manière assez facile. Alors, il y a des inscriptions, évidemment, il y a des emprunts un petit peu à la vie d'Irène Dominguez. Mais je me souviens que la dernière fois, je l'ai vue au téléphone, je voulais de nouveau la rencontrer dans son atelier à Saint-Ouen. Elle m'a dit, oui, Laure, on peut se rencontrer, mais je ne veux pas parler de choses tristes. C'était avant tout une femme très, très joyeuse, qui aimait beaucoup rire, beaucoup danser, beaucoup chanter. Mais si on observe ses tableaux de plus près, il y a des tableaux quand même qui sont beaucoup plus graves. Je pense qu'elle a vécu des choses vraiment difficiles, et puis elle a connu beaucoup de gens... célèbre, Dali, la femme de Neruda. Mais j'ai été très, très inspirée aussi par la poésie de Neruda. Enfin, il y a beaucoup aussi d'inscriptions de la poésie dans la poésie.
Tout à l'heure, vous avez vendu un peu la mèche en disant que vous n'avez jamais mis des pieds au Chili et que tout ça, c'était une fiction. Et j'ai fait lire votre livre à ce que j'appelle une conscience naïve, quelqu'un qui débute dans la littérature et qui m'a posé la question la plus simple, mais les questions les plus simples, c'est très intéressant. On m'a demandé, est-ce que c'est une histoire vraie ce que vous racontez?
On peut dire que c'est une histoire.
Vous débrouillez, hein, maintenant.
Oui,
hein.
Oui. Ben, d'accord. Ce sont, je pense que c'est des histoires qui sont. Ce sont des histoires vraies. Voilà. C'est une fiction à partir d'histoires d'hommes et de femmes. Donc, il y a. Alors, où est la réalité, où est la fiction, hein? C'est des emprunts chez Irène Dominguez, Pablo Neruda. C'est aussi le très beau livre d'Agar Peter sur Malva Marina, qui était la fille ignorée de Neruda. Enfin, voilà, c'est un. Ce sont des constructions d'histoire. Mmh. Qui sont vrais. Alors, quant au Chili, voilà, c'est un Chili un peu reconstruit, imaginaire.
Vous connaissez la phrase de Sandrars quand on lui demande s'il a vraiment pris le transsibérien. Vous savez ce qu'il répond ? Ça n'a aucune forme d'importance, parce que si jamais je suis parvenu à vous le faire prendre, ça revient au même.
Très beau, la prose du transsibérien, mais je pense que ça, c'est aussi mon grand-père qui était un grand architecte à Alger, qui a fait le foyer civique, qui a travaillé avec Belmondo. J'ai vu des plans, enfin, il connaissait Rome, mais par cœur. La moindre rue est née, il a eu prix de Rome, mais il n'est jamais allé à Rome. Mais c'est aussi assez merveilleux de s'approprier comme ça des lieux. Puis je crois que c'est aussi surtout face à un grand amour que j'ai, enfin une grande... voilà, parce que je suis d'origine moi-même espagnole et catalane, hein, des Baléares, mais surtout pour la langue. Voilà, pour la langue, pour les mots, pour leur enveloppe sonore, pour la langue espagnole.
Tout à l'heure, je vous ai dit que ça ne devait pas être facile d'avoir rédigé la quatrième de couverture. On m'a dit que c'était Benoît qui l'avait fait. donc ça va. Ce n'est pas un texte linéaire.
Non.
Voilà. Deuxième question, après, vous débrouillez. Deuxième question, ce n'est pas un texte linéaire. Est-ce que vous avez une idée de votre lectorat ?
Est-ce que j'ai une idée de mon lectorat ?
Qui peut lire ça ? Voilà, qui peut lire ça ?
Bah, je pense que ça peut être des gens qui aiment la poésie, qui acceptent de ne pas tout comprendre, qui peuvent se laisser embarquer. Alors, je ne suis pas une raconteuse d'histoire. Et alors, je me suis posé moi-même la question, pourquoi est-ce que tu es incapable d'écrire une histoire qui soit linéaire ? Parce que j'en lis beaucoup, j'aime vraiment toutes sortes de littérature, voilà. Mais je pense que ça correspond vraiment à mon schéma de pensée. Parce que souvent, on peut me faire le reproche, et je comprends, qu'il y ait beaucoup d'ellipses. Alors, soit on le lit comme un long poème en prose, soit on y voit, effectivement, selon sa propre sensibilité, beaucoup de références politiques. Par contre, là, je ne m'embarquerai pas là-dedans.
Oui, on peut pas les nier.
Mais on ne peut pas les nier, parce que je crois qu'au fond, que le lieu de l'écriture, pour moi, c'est le lieu de l'indignation et de la protestation. Et ça, c'est politique. Et c'est toute forme d'aliénation qui me...
Nous sommes parfaitement d'accord. Ouais. Oui, non, mais ça me paraît évident. Oui. Je veux dire que c'est une fiction. N'empêche qu'il y a Pinochet, il y a Videla, et on prend une position par rapport à ça. Lorsque je vous parle de la jeune femme argentine qui n'a pas le droit de porter plainte contre son père, on est dans l'indignation.
Oui.
Mais voilà. Oui. Mmh. Voilà, donc c'est pour ça que lorsqu'on lit le résumé, je vais le faire comme ça, Santiago, années 70, la brigade Ramona Parra peint sur les murs en signe de protestation et l'opposition à Pinochet. Amalia est l'une de leurs membres, hantée par son père, notable, soutenue par sa mère, conteuse, aidée de ses compagnons d'armes et de poésie. Elle poursuit son art sans jamais savoir ou vouloir savoir qui l'a livrée au bourreau. Bon, ça c'est un résumé, mais j'ai envie de dire qu'on n'a rien, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit.
Oui, on peut s'attendre à une histoire en effet linéaire, avec des coups de théâtre, avec des révélations. Mais peut-être que dans la quatrième de couverture, s'il y a une dimension un peu trop énigmatique et poétique, ça peut ne pas séduire le lecteur. Ou alors, effectivement, une fois qu'on a lu la quatrième de couverture et qu'on a lu le livre, on a l'impression qu'il y a un peu, voilà, un décalage, enfin, il me semble, peut-être, entre ce qui est annoncé et la... et le livre, mais je crois qu'on est quand même beaucoup à être pas forcément dans sa vie, dans une espèce de linéarité. Enfin, là, je parle, mais sinon, je suis quelqu'un. Et je suis professeur, c'est ma profession, donc je parle. Mais j'ai, en revanche, beaucoup de mal avec les mots, avec. Je suis très bavarde dans ma tête. Mais voilà, c'est plein de contradictions. Et c'est ça que j'aime bien dans la poésie de Sénac, dans la poésie de Prévert. C'est vraiment ce que j'aime, c'est cette alliance entre, cette espèce de choc entre le lyrisme et quelque chose de, très, de beaucoup plus terre-à-terre, avec voilà, des mots qui, sont, qui soient voilà, beaucoup plus rugueux.
En vous lisant, ce n'est pas le mot contradiction que j'ai employé, moi c'était le mot paradoxe.
Oui, paradoxe.
Et je vais après, ça va peut-être vous étonner, vous surprendre, peut-être que vous allez sortir du studio. Je vais vous dire comment moi je vous ai lu. Voilà, on va le dire après, on va écouter un peu de musique, je suis comme, etc. Mais avant, moi je suis, vous avez écrit, moi je suis lecteur, et il y a peut-être des choses que vous faites à votre insu, quand on, bien sûr, quand on écrit. Et moi j'ai vu un dénominateur commun. Avant de vous dire, après je me réserve le droit de vous dire comment je vous ai lu. Hein. Et c'est drôle parce que vous écrivez, écrire c'est laisser une trace, et quand on n'y peut rien, c'est comme ça. Et dans votre livre, d'un bout à l'autre, il y a plusieurs signes de vouloir éliminer les choses. Vous avez remarqué ça ou pas ?
Oui, mais je suis consciente de ce paradoxe.
Oui, il y a plusieurs moments là, je vais les trouver très rapidement là. Et c'est quasiment un leitmotiv. Alors, je veux dormir et ne me souvenir de rien. Après, vous avez page 71, vous voyez, je vous ai lu, moi. Voilà. J'appelle ça la disparition. Hein. Et puis, faire disparaître la disparition. Mm-hmm. Hein. Ça, c'était pas prévu. Bon. 71, j'en ai d'autres. Hein. Se débarrasser de la bouche. Hein, et le dernier, j'en ai d'autres comme ça à votre actif, vous n'allez pas sortir d'ici indemne, c'est moi qui vous l'ai dit. Que la peau de mon dos se fende, que je me quitte enfin, moi-même, un seul mouvement d'épaule, un infime et pitoyable mouvement d'épaule. Il y a dans tout votre livre, là, au bord du désert d'Atacama, une façon de vouloir se quitter. Alors vous écrivez pour vous quitter. À moi, docteur Freud.
L'inconscient est là. Et quand on a conscience, à un moment de son inconscient, c'est ces moments magiques dans l'écriture. Mais je pense que quand j'ai commencé à écrire, j'avais l'impression de vouloir me délivrer, me désencombrer quelque chose.
Vous l'aviez vu ça en vous relisant, qu'il y avait un besoin d'élimination de celui qui parle. Enfin, c'est ça, de celui qui parle.
Oui,
quoi.
C'est ça, parce que enfin, je pense que j'en ai conscience aussi. C'est aussi toujours partagé entre l'orgueil de faire des choses, l'orgueil d'écrire, de laisser des traces, et en même temps de se dire bon, excusez-moi d'exister. Finalement, il vaut mieux disparaître. Alors, c'est aussi un peu en adéquation, je pense, avec ma nature profonde. Hein, j'en suis consciente. Mais dans le cheminement de l'écriture, en fait, je me dis que non, j'étais persuadée que j'allais me désencombrer, que il y avait une vertu thérapeutique. On allait déballer des choses, exprimer comme le fruit exprime du jus. Et puis, finalement, je me dis que non, que j'écris pour établir une sorte de dialogue avec une espèce de jumeau noir comme ça, un peu évidemment ténébreux, et c'est ce dialogue-là, et en même temps c'est le seul moment où je peux établir un lien où je ne me préoccupe plus de moi-même, en fait. Il y a ce dialogue entre ces deux versants de moi-même, et en même temps où je me raccorde un peu au monde. Enfin, au monde, c'est bien un grand mot de dire ça, mais en tout cas de dire que j'établis un lien avec ce qui m'insupporte, avec ce qui m'indigne, et tout en ayant conscience que c'est aussi un grand orgueil de vouloir laisser des traces. Mais je pense que ce paradoxe-là, il existe d'entre nous.
Robert Desnos disait, pourquoi écrivez-vous ? Mais pour vous donner rendez-vous.
Oui, en plus,
c'est
ça
magnifique.
Arrive, c'est beau. Voilà.
Alors, avant d'écouter Tita N. Zebi, si ça fonctionne, mais Monique est capable de tout, j'en suis persuadé. Si elle ne peut pas, mais on continuera avec Astor Piazzolla. Je vais vous raconter ma nounou. Pas la mienne, hein.
Oui.
Pas la mienne, j'en connais une nounou.
La nounou féministe.
Avec tout ce qui se passe, elle a 68 ans. Généralement, les nounous, elles ne sont pas propriétaires. C'est comme ça, elle travaille, 68 ans. Elle est obligée de travailler. Elle est obligée de travailler. Elle s'est aperçue, ça fait longtemps qu'elle le sait, qu'à 68 ans, courir après un gosse qui a de 4-5 ans, c'est pas facile. Et puis, elle a eu des enfants. Son mari est parti, elle a eu des enfants. Sa fille est militante, etc. Et elle lui a fait le coup, un jour, de l'auteur avec un E. Et la nounou, qui n'était pas du tout politique avec tout ce qui se passe, elle est fortement en colère. Elle pense que ce n'est pas le problème. Ce n'est pas du tout le problème. Elle a demandé à sa fille quel était le masculin nounou. Elle est bien, celle-là. Elle est jolie, voilà. Voilà. C'est un peu ma réponse par rapport au E, par rapport à certaines préoccupations féministes.
D'accord.
Monique, faites des miracles, sainte Monique.
Bingo, ma vie, zenzo, amour. Watson, Inyungu, Musang, Bakem, Bangong, Tumbu, Lukumu, Bidib, Shei, Mashaku, Mamo, Tuat.
Eh ben, merci Monique au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Eh ben, moi, je trouve que c'est une superbe voix, Tita Nzebi. Donc, je vais vous dire comment je vous ai lu, là. Et c'est une drôle de chose qui va vous arriver, là, je vous promets. Alors, c'est par rapport à Rob. Alors, moi, c'est pas tellement la peinture de la dame qui m'aurait orienté ma lecture, c'est la présence de Roberto Matta. Dans ma vie, j'ai eu à me pencher sur Roberto Matta parce que mon ami Michel Fardoulis-Lagrange était un ami intime de Roberto Matta. Il a même écrit un essai sur Matta qui s'appelle « Sur Matta ». Alors, si vous pouvez le trouver, ça doit être introuvable. Un essai philosophique qui est assez difficile, mais qui est quand même très, très beau. Et donc, vous, à plusieurs reprises, vous citez Roberto Matta dans votre livre, qui est chilien, Et vous dites, je suis passé à l'exil, quelque part, entre le connu et l'inconnu, entre la réalité et l'imaginaire, là où commence la poésie. Magnifique, ça.
Oui, c'est magnifique.
On peut même le répéter, je suis passé à l'exil, quelque part, entre le connu et l'inconnu, entre la réalité et l'imaginaire, là où commence la poésie. Mais il n'ignore, n'est pas encore un nom murmuré dans la nuit. Il est pour l'instant ce jeune militant qui trace sur les murs de Santiago des oiseaux, des drapeaux, des mains au blanc-violet, des pinceaux aux dents rouges à l'aube ou pendant la nuit. De jeunes artistes de la brigade Ramona Para font fleurir sur les murs de la ville des œuvres collectives. Ils ont tous répondu à la proposition de Pablo Neruda qui soutient le président Allende. Tandis que les traceurs se chargent des contours, des lettres ou des dessins très simples, les remplisseurs colorient l'intérieur. Avec ses camarades Roberto Matta et Alejandro González, Eugenio écrit l'histoire de bas en haut, de long en large, une histoire où la couleur, comme une fulgurance, laissera sa trace dans ce monde. Voilà. Donc c'est la présence de Roberto Matta, qui est un peintre, contrairement à Diego Rivera, qui est un peintre qui est, on va dire, spatial, ailleurs, mais qui est d'un être très politique. Très politique, je sais pas, on va revenir à Jean Sénac. Vous savez qu'il a fait une suite de toiles sur la question d'Henri Allègue pendant la guerre d'Algérie. Donc c'est quelqu'un qui politiquement est très engagé.
Roberto Matta.
Oui.
Et oui, il a peint d'ailleurs en 71 avec la brigade Ramona Para. Une très très grande fraise, je crois, qui mesurait plus de 25 mètres de long. Dans une ancienne piscine. Et d'ailleurs, après 73, très vite, toutes ces peintures murales ont été complètement recouvertes de peinture. Et je crois que c'est en 2005 ou 2008 où on a pu retrouver ces peintures murales. Je crois que c'était des étudiants qui ont pu remettre à jour ces grandes fresques auxquelles a participé Roberto Matta. Et c'était les fameuses brigades des jeunesses communistes. Il y avait aussi les jeunesses socialistes, mais je crois que, là, peut-être que vous le savez mieux que moi, que Roberto Matta faisait partie là, des jeunesses communistes avec la brigade Ramona Para, qui porte le nom voilà, d'une jeune militante de 19 ans qui est morte en 1936. Et effectivement, il fallait aller très très vite pour recouvrir ces murs. Hein. Je crois qu'au début, ça n'avait pas du tout de
vocation artistique. Vous les avez vues, les fresques de Roberto Matta, vous ?
Je les ai vues. Il y en a une ou deux qu'on peut voir sur certains livres ou sur Internet. Mais,
Parce que c'est une peinture qui n'a rien à voir avec Diego Rivera.
Non, ce sont des peintures qui sont très... qui vont raconter une histoire. Parce qu'au départ, c'était vraiment une iconographie extrêmement simple. Et puis, il fallait aller très vite. Donc, il y avait des points, il y avait des épis, il y avait des étoiles, il y avait des visages des ouvriers. Chacun avait une tâche à accomplir, comme je l'indique. Là, il y avait les remplis, traceurs, les remplisseurs. Au départ, c'était l'évitation de Neruda, et ça a pris une envergure un peu plus importante avec pendant l'Unité populaire. Mais ensuite, c'était raconter une histoire. Un peu comme je le dis au début du roman, une histoire de bas en haut, de long en large.
Alors, puisque la peinture vous hante du départ jusqu'à la fin dans ce livre.
Oui, c'est vrai, elle est constamment présente.
Alors moi, je vais vous dire comment je vous ai lu.
Allons-y.
On y va. Bon, ben y aller. Hein. alors, bien que dans votre livre, ça voyage, puisqu'on est ça passe de la Vendée, on passe par le Chili, on passe d'époques différentes, ça s'étale sur 20 ans environ. Oui. Et moi, je ne sais pas si vous savez, mais les peintres du début 19e, les peintres historiques, peignaient tout sur un même plan. Vous allez comprendre ce que je vais vous raconter. Par exemple, il y a un très mauvais peintre qui s'appelle Lejeune, qui était un militaire, et qui a peint la bataille de Marengo. Et donc, il y a ce tableau, et on voit Bonaparte, vous allez voir au journal, on voit Bonaparte, on voit les Autrichiens arriver, on voit Desaix en train de se faire massacrer, et toutes les choses sont pourtant arrivées à des heures différentes. Et tout est mis sur le même plan. Et vous et moi, en vous lisant, je me suis aperçu que bien que vous ayez donné des dates différentes, bien que vous ayez donné des lieux différents, tout pour moi s'est passé sur un même plan. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça participe de ce qu'on disait un peu tout à l'heure, quand on parlait de paradoxe, et qu'on peut aussi se dire qu'il y a beaucoup d'ellipses. Et finalement, cette histoire sur 20 ans, cette histoire, elle se déroule néanmoins sur un même plan. Parce qu'effectivement, parce qu'il y a des répercussions de personnage en personnage, ce sont des liens qui se tissent au fur et à mesure. Et effectivement, si on lit ce livre de cette manière-là, alors il y a une sorte de compréhension générale, d'unité qui va s'établir et qui va faire sens. Et à contrario, on va pas avoir une lecture qui va être de l'ordre du morcellement, même si les personnages eux-mêmes sont morcelés. Mais on peut avoir cette vision comme ça d'ensemble, mais effectivement sur 120 pages. Alors je disais que j'avais l'impression d'en écrire 500.
Mais ma lecture n'est pas morcelée. Pour moi, c'est un seul bloc. Déjà, c'est la première lecture que j'en ai faite. Deuxième lecture, ça va se compliquer après. ça va se compliquer. Alors, je vous ai dit que j'avais fréquenté un peu Roberto Matta pour des raisons, etc. Et j'ai trouvé Roberto Matta qui a participé au groupe surréaliste. Il a été viré, il est revenu, etc. Qui a toujours été un politique. Toujours été un politique avec des fidélités castristes. Je ne sais pas si vous le savez, il était très admirateur de Fidel Castro. Et en 47, Breton va écrire une phrase sur Matin. Cette phrase, ça paraît un peu compliquée, mais je vais quand même essayer de là. C'est comme ça que j'ai lu votre livre. Hein? Alors, avant toute chose, puisqu'on emploie un mot qui est pas un mot courant, c'est le mot synesthésie. Synesthésie, vous voyez ce que c'est, c'est tout ce qui est extrasensoriel.
Voilà, hein? On va parler à propos de Rimbaud, par exemple.
De Rimbaud, bien sûr, extrasensoriel, voilà. Et Breton, en 47, écrit sur Matta, qui a l'impression que Matta, c'est un exercice de synesthésie, c'est la sensation de vague de l'être, c'est dans votre livre, je ne sais pas, hein, et de ses fonctions, voilà. C'est l'idée que ça m'a fait, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous dites des choses, avec des dates, etc., et tout ça est flottant, comme dans une toile de Roberto Matta. Vous voyez ce que peint Roberto Matta, hein, c'est une espèce de choses spatio-temporelles où tout va à droite, à tout à gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Et j'ai lu ça du début à la fin, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Rien.
Si, j'en pense que peut-être qu'il y a quelque chose de... j'allais employer un adjectif un peu vaporeux, mais pour moi, c'est la... C'est le sens même de la poésie. Mmh. Quand on parle des synesthésies, parce que l'écriture, c'est le lieu là où tous les sens sont complètement décuplés. Et moi, ce que j'aime, c'est aussi l'enveloppe sonore des mots. C'est un peu le langage-tangage de l'Héris. C'est le lieu de l'inconscient. Et effectivement... C'est parfois au départ de l'écriture comme un brouillard, un brouillard de mots, et c'est le moment où on va un peu se poser, mais et où la phrase va résonner d'une certaine manière, et on est dans, alors effectivement, c'est, il y a à la fois la poésie, la politique, ça pourrait être complètement antinomique. Mmh. Hein, mais non, c'est pas du tout
antinomique, hein.
Pas tant que ça, puisqu'il y a quelque chose qui, voilà, dans les mots, dans le rapport à l'art, enfin, c'est parfois un peu prétentieux de le dire, comment l'art peut nous sauver de la barbarie. Oui, quand on vit un peu tranquillement, après il y a des combats qui sont vraiment importants, mais comment les mots et comment l'imaginaire, tout ce qui va être un peu flottant, un peu vaporeux, un peu inexplicable, qui est de l'ordre de l'énigme. Je parle pas de l'amour, mais voilà, de ces élans un peu confus qu'on peut ressentir et qui vont finalement permettre, pas de nous guérir, mais qui vont être un peu consolatoires. C'est un peu ce qui se passe dans le roman, en revanche, avec Amalia, qui est effectivement un peu en exil, qui est dans son corps, elle a peur de mourir dans son corps. Et la belle phrase de Roberto Matta, pour moi, était très, très représentative de ce personnage. Et ce qui m'intéresse, c'est ces personnages qui sont toujours au bord d'eux. Mmh. Ils sont au bord du monde. Voilà, au bord de...
C'est au bord, c'est le titre du livre. Hein. On n'est pas sur les rivages, on est au bord du désert. Oui.
J'ai lu longtemps après que il y avait un livre qui avait été édité par le juge des affaires de Pinochet et qui avait écrit son livre Au bord du monde. Et pour lui, c'était au bord de la cordillère et du Pacifique, c'était au bord de la vérité du mensonge. Et dans mon livre, voilà, c'est au bord du monde, au bord de la folie. C'est toujours ce point de bascule qui m'intéresse, et aussi dans la langue. Parfois j'assimile Sénèque et Prévert, et ça peut être voilà, il y a d'autres poètes, mais c'est à la fois quelque chose de très onirique, de très beau, et tout à coup un mot qui va nous faire basculer dans une dimension qui va être plus politique. Je pense à Creuse en l'air de Prévert. Je pense que quand j'étais petite, je lisais un poème de Sénèque, qui est plus intimiste, plus lyrique. Hein, pour lui, c'était vraiment, voilà, une espèce de entre le lyrique et les tripes. Voilà, c'est ça qui m'intéresse dans la poésie, dans la littérature, c'est ce mélange-là. Alors qu'effectivement, dans ce que vous disiez tout à l'heure à propos de cette phrase, je ne sais pas si j'y réponds vraiment, mais c'est oui, il y a quelque chose de confus qui forcément transparaît dans le livre, mais on remplit les vides et les pleins, comme on essaye de le faire chacun pour soi. C'était pas toujours facile. La poésie est mobile. Enfin, Sénèque disait que le poète, il faut pas rendre immobile le poète dans son vers. Il est mobile. Il est voilà, celui qui bouge.
Vous savez, les grands poètes, on va en prendre un, c'est par exemple Aimé Césaire. Celui qui ne trouve pas énigmatique Césaire, voilà. Vous savez, quand on a rendu hommage à Césaire au Panthéon, nos bons intellectuels, on a plein partout, avaient tous lu Césaire de façon, comme ça, comme du petit lait. Il n'y en a qu'un seul qui a osé dire que c'était difficile, c'est le joueur de football Guillaume Thuram, qui doit être martiniquais ou guadeloupéen, je ne sais pas, et qui a dit non, mais Césaire c'est bien, mais qu'est-ce que c'est difficile. C'est le seul qui a avoué. Et quand vous vous penchez sur Césaire, poète politique, hein, il a été, pas si vous voyez, si vous connaissez ses grands textes, le discours sur le colonialisme, c'est des splendeurs, c'est un poète politique, comme Neruda est un poète complètement politique aussi, hein. Ballon et Luda, on ne peut pas dire le contraire. Toute sa... Oui, non, vous en avez dit.
Oui, politique. Après, il y a les poèmes d'amour.
Non, mais lui-même est politique jusqu'au bout.
Oui, oui.
Hein, voilà.
Oui, oui, voilà. Sénateur, consul, oui, bien sûr.
Pris, voilà. Et puis, il est, c'est quelqu'un qui a voyagé avec le Parti communiste jusqu'à la fin de ses jours, Pablo Neruda. Mmh. Voilà. Et bien, on va continuer, parce qu'il y a un tout petit point qu'on voudrait aborder avant qu'on se quitte. Hein, et puis, on va écouter un peu de musique, si c'est possible. Monique, restez avec nous, s'il vous plaît. Un peu de sérieux, Monique. Merci.
Bayou pinzalier, 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 Bayou pinzal
L'or. Au 01 43 71 89 40. Vous voyez que Monique fait toujours des miracles. Hein, Tita Ensevi. C'est magnifique. Tout à l'heure, je vous ai fait a cappella une citation. Il faut jamais faire ça. Et je vais vous la lire. Celle de Breton en 47. Voilà. C'est comme si je vous ai. Voilà. Il dit, en parlant de Mata, une relation spatiale qui font appel, outre le sens optique, puisque c'est la peinture, hein, aux divers autres sens, depuis le sens cinétique jusqu'au sens plus ou moins perdu de la divination. Voilà, magnifique, là. Et tout ça, c'est pour faire la transition avec les Indiens Mapuches.
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est que ces Indiens Mapuches qui reviennent dans vos...
Mapuche.
Tu dis Mapuche, toi?
Ah oui, quand
même. D'accord, nous avons...
On en a reçu ici, en plus.
Nous avons un expert, un spécialiste, et Monique aussi en cabine, là, bien sûr. Bon, alors, allez-y. Alors.
Bah, les Mapuche, c'est textuellement les gens de la Terre. Donc, Mapu et Che, la Terre. Et il y a beaucoup de contes dont se nourrit la narratrice et sa mère, et c'est toujours un fil conducteur avec l'imaginaire, avec des héros qui vont batailler. En l'occurrence, il y a une histoire d'un enfant qui s'appelle le fils de l'ours, toujours à la recherche. À la recherche du père perdu, il est là, c'est un thème assez récurrent, et qui vont aider Amalia et son fils à ne pas perdre le fil avec l'histoire de leur pays. Et c'est les Indiens Mapuche. C'est aussi des personnages. Et des gens qu'on
ce sont des histoires à fond religieux ou pas?
C'est à fond religieux.
Parce que lorsqu'on veut regarder les histoires en Bretagne, qui est quand même un pays très, très catholique au départ et très religieux, vous avez un tas de légendes qui s'est installée là, qui va contre le monothéisme.
Oui, mais c'est le cas aussi. C'est-à-dire que toutes les la terre, le ciel, la mer sont habitées par des êtres étranges qui vont avoir des répercussions sur les récoltes, sur la pêche. Hein, quand je parle dans le livre de la pincoya, alors il y a ces croyances, enfin ces façons d'habiter le monde. Et puis les Mapuche, c'est ce dont parle aussi ce réalisateur qui est l'auteur de la nostalgie de la lumière, qui est Guzman. Donc j'ai vu aussi ces films, et tout ça m'a aussi inspiré pour écrire le livre. Donc la fois, voilà, ce sont des Indiens qui ont existé, qui étaient les ancêtres, hein, parce que le Chili dépendait aussi beaucoup du Pérou il y a 300 ans, et ces Mapuches qui ont été presque tous décimés. Et ils ont une langue évidemment orale, et puis on peut trouver quelques livres avec des récits où toute la nature et dans toute la nature, en fait, les hommes et les animaux se confondent. Alors il y a c'est assez dichotomique, comme dans beaucoup de fables et d'histoires, les méchants et les gentils.
Nous relevions le drap au-dessus de nos têtes et elle me racontait les légendes des Indiens Mapuche. Ces redoutables guerriers d'Araucanie. Je lui réclamais souvent l'histoire du valeureux Calvumil et de son épée extraordinaire, parti à la recherche de l'herbe à fleurs jaunes, qui seul aura le pouvoir de guérir le chef du village, son père, ou celle de l'alouette qui posait trop de questions et qui terminait sa course sur le soufflet d'un forgeron. Voilà. Voilà. Et tout, y a tout ça dans votre livre, hein. Y a toujours, c'est quelque chose qui est récurrent. Moi, je pense que c'est un texte politique. On peut pas dire le contraire, là. Mais il y a toujours l'imaginaire qui revient. Cet imaginaire, et c'est pas du tout antagoniste. Hein.
Non, c'est pas antagoniste. Voilà. Non, on pourrait penser, mais il y a des interactions. C'est-à-dire que voilà, ce qui est politique, ça peut être aussi un... bah, laisser place, on peut parler de la poésie quand on est effectivement bien portant et que tout, tout va bien. Mais c'est absolu, ça, ça va nourrir la politique, ça c'est important. Et dans ces contes Mapuche, il y a effectivement aussi beaucoup de poésie, beaucoup de cruauté aussi.
En Argentine, ben, simultanément à tout ça, il y avait Borges.
Borges.
Ouais, magnifique texte.
Oui.
Qui, alors là, c'est le. Qu'est-ce que pense Borges? Vous avez idée, vous, politiquement? Qu'est-ce qu'il a eu comme attitude par rapport à la dictature? On ne sait pas. C'est quelqu'un qui est resté dans tout le domaine du labyrinthe, dans le domaine de la langue, et qui reste, même si à la fin il a quand même eu quelques protestations, qui a toujours été très habile, qui a slalomé, et qui vit, lui, uniquement dans le phénomène du langage. J'ai envie de dire, même dans une neutralité. Ce qui n'est pas le cas de Roberto Matta, ce qui n'est pas le cas de Pablo Neruda, ce n'est pas le cas de ces gens-là.
Oui, ça peut être un refuge. Mais sans que ce soit le fait de se mettre en dehors du monde.
J'avais trois lignes avant qu'on se quitte, là. À propos de votre livre, j'ai simplement écrit on écrit des choses en marge comme ça. En fin de compte, c'est l'écriture. Votre écriture, c'est en fin de compte se souvenir de ce qu'on n'a pas vécu et donner une histoire vraie.
Oui, donner une histoire vraie.
En se souvenant de ce qu'on n'a pas vécu. Ça vous va ou pas?
Oui, parce que ces souvenirs, ils peuvent prendre racine aussi dans un terreau imaginaire. Après, c'est le lecteur qui en fait ce qu'il veut. Moi-même, je ne sais pas, je ne pourrais pas toujours expliquer pourquoi ces mêmes thèmes sont récurrents dans les livres que j'ai écrits, où il y a quand même à la fois de l'imaginaire, la rêverie, la poésie, mais aussi la violence. Alors, c'est peut-être une façon de l'exprimer de cette façon.
Tenez, vous allez prendre vos responsabilités, parce que je crois que vous vouliez lire au micro de Radio Libertaire 89.4. Alors là, c'est le piège de Benoît Viraud. Benoît Viraud a fait une très belle jaquette, c'est magnifique, là. Et il faut vraiment...
À l'intérieur,
c'est ainsi, voilà. Allez-y, voilà, c'est, et puis expliquez ce que c'est. Allez-y.
Alors, à l'intérieur, il y a plusieurs textes qui sont des extraits de témoignages. De gens qui ont été des prisonniers politiques, soit d'une personne qui a été torturée sur l'Esmeralda, qui était un très grand navire, vraiment le fleuron Chili, et qui a servi de laboratoire de torture. Il y a aussi une histoire, il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé, c'est Luis Sepúlveda. Et il y a effectivement des citations de Carmen Yáñez. Il y a un très beau livre d'ailleurs qui vient de sortir, qui s'appelle Un doute et une certitude, où il est question de politique, de football aussi. Il explique pourquoi il appelle ça comme ça. Et en fait, en faisant des recherches, Carmen Yáñez était toute jeune quand elle a connu Luis Sepúlveda. Et peut-être que certains connaissent... ces livres, il y a des nouvelles où le vieux qui disait des romans d'amour, c'est un des plus connus, où il est question des Indiens Mapuche d'ailleurs.
Petite parenthèse, Laure, avant que vous lisiez quand même quelques lignes, là, dans la manifestation de jeudi, il y avait deux jeunes filles avec une citation de Sepúlveda.
Oui.
Ouais, magnifique.
Ah, oui.
Magnifique. Deux jeunes filles, je ne sais pas, 17-18 ans, comme
ouais,
ça, et qui avaient ça. Voilà.
Bien, et allez-y. Parce que. Et alors, Carmen, je peux lire ce.
Oui, allez-y, au contraire.
Donc, très jeune, elle a connu Sepúlveda, ils sont retrouvés à la fin de sa vie, et Carmen Yáñez avait été militante politique, et elle se retrouve à la Villa Grimaldi. Je n'arrivais pas à y croire. J'étais à la Villa Grimaldi, l'un des sinistres centres d'interrogatoire et de torture mis en place par Pinochet. Je connaissais des gens qui étaient passés par là. Je savais ce qu'on y subissait. Un homme est entré, je pouvais distinguer le bas de son pantalon. Il était très gros, il sentait mauvais. On m'a attaché sur un sommier en fer, ils appelaient ça la grille. Il y avait une odeur de vomi et d'excréments. Ils ont mis la musique très fort, des variétés. L'homme a fixé sur mon poignet un bracelet en métal, relié à une machine, et a branché l'électricité. Il avait aussi une sorte de clé, qu'il promenait sur mon corps pour y envoyer des décharges. Sur les tempes, les chevilles, les pointes des seins. Je ne savais pas quand ça allait venir. Il me demandait qui je connaissais, où étaient les armes, comme on était et organisé. Je ne faisais que crier. J'avais préparé un mensonge que je répétais. Ça a duré, je ne sais pas, un temps infini. Donc elle dit qu'elle a rencontré aussi Marcia Cantelbury, avec qui elle qu'elle a retrouvé plus tard. Et elle a retrouvé Sepúlveda vers la fin de sa vie, où ils vivaient chacun de son côté, ils sont remariés d'ailleurs. Et donc dans ce livre que je cite, Un doute, une certitude, il y a de très très belles photos de Sepúlveda, de Carmen Yáñez, de ses mains. Enfin, elle a été militante même pour Greenpeace jusqu'à...
Eh bien alors, désaccord, c'était un plaisir de vous avoir. Hein, c'était un plaisir. On va là, au bord du désert d'Atacama, le Nouvelle-Atina. Bravo à Benoît, encore une fois. Il est en Suisse en train de se goinfrer de chocolat parce qu'il avait peur après l'émission d'être un peu dépressif. Alors, c'est comme ça. Donc, petite parenthèse, c'est très agréable à lire. Voilà, c'est pas pesant, c'est un sujet qui est pas facile.
Oui,
la structure du livre n'est pas aisée, mais ça, voilà, j'ai envie de dire, ça coule comme une légende mapuche. Ça vous va, ça ?
Très bien.
On remercie Monique, merci. Bien sûr. Ben là, Monique, main de fée, main de diablesse aussi parfois. Merci Monique, 89.4 Radio Libertaire.
Sur le bord du chemin, plus de vie dans le corps et massacré les mains. Veilleur, passeur d'espoir, l'écrivait des chansons. Touché à la guitare, Rara était son nom. C'était le 11e jour d'un septembre au Chili. Blindés, passants qui courent dans la ville ébahie. Les brutes militaires des casernes jaillies. Les avions, la poussière et les bombes et les cris. Le peuple uni jamais ne sera vaincu, non. Le peuple uni jamais n'inclinera le front. C'est au stade d'abord qu'ils ont été parqués. Les promis à la mort, les déjà sacrifiés. Le chanteur, c'est bien toi, demande un officier. Victor le fixe droit dans les yeux sans ciller. C'était le 11e jour d'un septembre au Chili. 30 ans, le temps qui court n'apporte pas l'oubli. Venu de Washington à peine déguisé. L'ordre implacable tonne, tuer la liberté. Le peuple uni jamais ne sera vaincu, non. Le peuple uni jamais n'inclinera le front. Chante le bonheur et la fraternité. Celui-là fait-il peur aux barbares casqués. À coups de crosse on a fracassé ses poignets. Joue maintenant, Rara, avant de l'achever. C'était un 11e jour de septembre à Santiago. On l'a dans les faubourgs jeté dans un ruisseau. et personne depuis n'a demandé pardon. Pour les années de nuit, pour tous les compagnons. Non, personne là-bas n'a montré de remords. L'honneur, on connaît pas dans les états-majors. Le peuple uni jamais ne sera vaincu, non. Le peuple uni jamais n'inclinera le front. Le peuple uni jamais ne sera vaincu, non. Le peuple uni jamais n'inclinera le front.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Je souhaitais vous lire un communiqué qui nous est parvenu de compagnons présents dans la lutte à Sainte-Soline contre les méga-bassines. Donc ce communiqué, communiqué au sujet de S, camarade au pronostic vital engagé à la suite de la manifestation de Sainte-Soline. Samedi 25 mars, à Sainte-Soline, notre camarade S a été atteint à la tête par une grenade explosive lors de la manifestation contre les bassines. Malgré son état d'urgence absolue, la préfecture a sciemment empêché les secours d'intervenir dans un premier temps et d'engager son transport dans une unité de soins adaptée dans un second temps. Il est actuellement en réanimation neurochirurgicale. Son pronostic vital est toujours engagé. Le déferlement de violence que les manifestants ont subi a fait des centaines de blessés, avec plusieurs atteintes graves à l'intégrité physique, comme l'annoncent les différents bilans disponibles. Les 30 000 manifestants étaient venus dans l'objectif de bloquer le chantier de la méga-bassine de Sainte-Soline, un projet d'accaparement de l'eau par une minorité au profit d'un modèle capitaliste qui n'a rien à défendre sinon la mort. La violence du bras armé de l'État démocratique en est la traduction la plus saillante. Dans la séquence ouverte par le mouvement contre la réforme des retraites, la police mutile et tente d'assassiner pour empêcher le soulèvement, pour défendre la bourgeoisie et son monde. Rien n'entamera notre détermination à mettre fin à leur règne. Mardi 28 mars et les jours suivants, renforçons les grèves et les blocages, prenons les rues pour S et pour tous les blessés et les enfermés de nos mouvements. Vive la Révolution, et c'est signé des camarades de S.
Ainsi le vieux menteur a quitté le pouvoir. Et le peuple souverain, appelé à voter, a choisi Lise Nogoud, le teigneux à l'œil noir, pour marcher à sa tête, pour le représenter. Et le peuple souverain, chapeau la clairvoyance, par sa majorité librement exprimée, l'a jugé respectable et méritant confiance, et digne qu'on le suive, et digne d'être aimé. Douce France. Ainsi le Matamor et ses rodomontades se retrouvent enfin califes, des années qu'il se pousse, qu'il intrigue et grenouille, planqué en embuscade, prêt à tout pour devenir le premier d'entre tous. C'est une vie d'ambition qui est couronnée ici, marquée par le mensonge et le mépris des lois, où la trahison est une pratique établie, où les promesses n'engagent que celui qui les reçoit. Douce France! Ainsi le familier des salons milliardaires, le partisan de toujours des inégalités, l'empêcher d'entrer dans les quartiers en jachère par un tour de passe-passe, hop là, aurait changé, dissimulant ses crocs, le voilà qui se pose en héritier des justes, en agneau patelin, à peine s'il porte pas à son revers une rose, et le public baba applaudit des deux mains. Douce France! Ainsi dans le camp d'en face, les éléphants barissent et poussent des cris de baronnes effarouchées, alors qu'ils sont semblables et compères et complices, plus une once d'audace, plus l'ombre d'une idée, et les ondes flagornent et la presse est muette, je veux dire qu'on y voit guerre d'indignation. Ça n'a rien d'étonnant, puisque toutes les gazettes, ou quasi, appartiennent aux marchands de canons. Douce France! Ainsi les renégats viennent à la gamelle, sans vergogne à la soupe, les plats en rang serré, arrivistes et faux culs se ramassent à la pelle. Le spectacle est superbe en même temps qu'à pleurer, et le cow-boy obtus dans sa marche à la guerre, bénissant le dieu bon compte un allié de plus, pleurer les démunis, crever les pauvres hères. Voici le temps des brutes, le temps des parvenus, la pauvre consolation que l'on pourrait avoir. Mais je ne sais s'il y a lieu de rappeler ça, c'est que si le peuple est encore un couillon dans l'histoire, un cornard, un cocu, un porteur de grand bois, il l'est pour cette fois, pas tout seul dans ce cas. Douce France!
Vous écoutez toujours Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Toujours pour continuer sur les violences policières, nous avons reçu un communiqué des Observatoires des libertés publiques et des pratiques policières, dont la Ligue des droits de l'homme fait partie. Je vais vous le lire aussi. Donc, du vendredi 24 mars au dimanche 26 mars, 22 membres des Observatoires des libertés publiques et des pratiques policières du 93, de Gironde, de Paris, du Poitou-Charentes et de Toulouse étaient présents pour observer le maintien de l'ordre sur la zone de Sainte-Soline dans le cadre des mobilisations contre les méga-bassines. Dès nos premières observations le vendredi, nous avons constaté le bouclage ultra-sécuritaire de la zone avec des barrages routiers assortis de contrôles d'identité et de fouilles de véhicules généralisés, ainsi que la présence d'un camion doté d'un dispositif de renseignement. Ces opérations se sont poursuivies jusqu'au dimanche. Six équipes d'observateurs étaient présentes sur le terrain de la manifestation le samedi 25 mars. Dès le départ des cortèges depuis Vanzay jusqu'à leur retour, ceux-ci ont été surveillés de manière constante par un à deux hélicoptères. Avant l'arrivée des manifestants sur le site de la bassine de Sainte-Soline, des binômes de gendarmes armés et coiffés de casques de moto montés sur 20 quads sont venus à leur contact. Les cortèges ont dès lors fait l'objet de tirs massifs et indiscriminés au gaz lacrymogène, créant une mise en tension importante. Dès l'arrivée des cortèges sur le site de la bassine, les gendarmes leur ont tiré dessus avec des armes relevant des matériels de guerre. Tirs de grenades lacrymogènes, grenades assourdissantes, grenades explosives de type GM2L et GENL, y compris des tirs de LBD-40. Nous avons observé des tirs au LBD-40 depuis les CAD en mouvement. Des grenades ont été envoyées très loin et de manière indiscriminée dans les cortèges, à l'aide de lanceurs et de dispositifs de propulsion à retard. Les détonations très rapprochées de grenades explosives étaient régulièrement suivies de cris d'appel au secours pour assistance médicale. Certaines grenades lancées n'ayant pas explosé, le terrain était miné, donnant lieu à des explosions différées. A été également observé l'usage de deux canons à eau. Par ailleurs, nous avons observé la présence de fusils FAMAS, ainsi qu'au moins un fusil de type produit marquant, codé EMEK, EMF100, PMC. Le dispositif a mis gravement en danger l'ensemble des personnes présentes sur place, occasionnant de très nombreuses blessures, souvent graves, allant même jusqu'à plusieurs urgences absolues. Lorsque les élus ont fait une chaîne humaine autour des blessés pour les protéger et permettre leur évacuation, des tirs de grenades lacrymogènes ont été observés dans leur direction, les contraignant à reculer. À ce moment, en contradiction avec ce que prétend la préfète des Deux-Sèvres, rien ne justifiait l'utilisation de la force à l'encontre de ces personnes. En particulier, nous avons observé aucun tir d'engin incendiaire au niveau de cette zone. Nous avons constaté plusieurs cas d'entrave par les forces de l'ordre à l'intervention des secours, tant SAMU que pompiers. Le SAMU a indiqué ne pouvoir intervenir pour secourir un blessé en état d'urgence vitale dès lors que le commandant avait donné l'ordre de ne pas le faire dans une conversation téléphonique à laquelle ont assisté trois avocats de la Ligue des droits de l'homme. Or, nous avons observé que la zone se trouvait où se trouvait ce blessé était totalement calme depuis plusieurs dizaines de minutes lorsque cette indication a été donnée. Cette zone se situait à 200 mètres au nord-ouest du dispositif de gendarmerie entourant la bassine et à 500 mètres de l'ensemble des manifestants. Comme souvent, les forces de l'ordre étaient difficilement identifiables. Nous avons constaté la dissimulation de visages par des cagoules combinées à l'absence de RIO visible. En amont des observations, le 22 mars 2023, la préfète des Deux-Sèvres avait notifié à la LDH que les observateurs et observatrices présents sur les lieux seraient assimilés à des personnes manifestantes et devraient se conformer aux ordres de dispersion, leur déniant la protection que leur reconnaît le droit international et en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d'État. Le matériel d'observation d'une équipe a été confisqué. De manière générale, nous avons constaté un usage immodéré et indiscriminé de la force sur l'ensemble des personnes présentes sur les lieux, avec un objectif clair, empêcher l'accès à la bassine, quel qu'en soit le coût humain. Au regard de la gravité de la situation et compte tenu des observations menées ces derniers jours, un rapport d'analyse complet et détaillé sera produit ultérieurement. Et ceci a été écrit le 26 mars 2023.
Ça se passe à la fin d'une époque, un village au fond du Maroc. Ils avaient pas tout bien compris. On leur voulait que du bien ma mère, à preuve on avait des prières qui valaient mieux que les leurs, pareil. Mais eux c'est mauvaise volonté, et puis tendance à comploter contre la patrie nourricière. Ces gens-là c'est moins que des bêtes, faut leur enfoncer dans la tête, on verra qui c'est les plus fiers. Alors les avions en rase-motte font tomber mieux qu'à gravelotte le feu, le fer, la fin du monde. Si bien que quand le soleil se couche, c'est un vrai bonheur pour les mouches, y'a que des macabées à la ronde. Quand viendra l'heure de Guernica, c'est Franco qui s'en souviendra, mais en passant, je vous signale que celui qui a inventé ça, c'était un bon soldat François, c'était un putain de maréchal. On le sait depuis Charlemagne, fallait pas inventer l'Allemagne, fallait la laisser dans ses limbes. Mais ça le manie, vieille habitude, on aime cela sauter bien rude, et y'en a pas un qui rejeune. On part au front tout étoilé, de rires, de fleurs, de doux baisers, les femmes embrassent leur piou-piou. Mais ceux qui reviennent au village, ils sont finis, ils ont plus d'âge, quand ils sont pas restés dans le trou. C'est tellement une évidence, comme dit monsieur Anatole France, on croit mourir pour la patrie. Mais au petit jour dans le décor, on voit seulement fumer les morts dont s'est bien nourrie l'industrie. Et ceux qui s'arrêtent et qui disent, il serait temps qu'on fraternise, on les fusille au matin pâle. Et Satan fera les comptes, le chef du peloton de la honte, c'était ce putain de maréchal. La France a une petite santé, le cœur fragile, la rate dilatée, c'est sûr, elle est pas résistante. Alors elle suit son régime, boit de l'eau de Vichy, c'est pas un crime, puis elle s'endort, bien contente. Pendant ce temps-là, des trains saignent, mais ne réveillent pas Compiègne, ni Saint-Pierre-des-Corps, ni Mulhouse. Pendant ce temps-là, des bons gars trafiquent du rutabaga en multipliant par pidouze. Hitler tout seul n'existe pas, faut être des millions pour ça, à mettre sa pierre à l'édifice. Mais le vieux soudard à moustache, dans son héroïsme sans tache, est le plus ailé des complices. C'était pour le moins prudent qu'un certain de nos présidents le remette sur son piédestal. Il y a des gerbes de fleurs qui parfois me soulèvent le cœur, comme ce putain de maréchal. Aujourd'hui, au fond de ma baraque, j'entends mon vieux pays qui craque, y a comme une odeur de moisi. Il y a des chiens prêts à mordre, il y a des nostalgiques de l'ordre, bavots nasaux, nouveaux nazis. Mais le pire de tous, c'est les mecs qui, sans vraiment le dire, couche avec, rêve d'une France qui marche ou pas de loi. Font la morale aux mendigos, puis les écrasent comme des mégots. Putain de maréchal, les voilà.